Aujourd'hui, en ce monde 2005, peut-on encore croire qu'il est possible de lutter dans le monde du travail? Et si oui, sous quelle forme?
Bon, je suis pas très vieux. D'abord, je suis pas très vieux. Et j'ai commencé à travailler à 14 ans. Quand j'ai quitté l'école, j'avais le choix entre apprendre le métier de menuisier ou maroquinier. Alors, maroquinier, je ne savais pas trop ce que c'était, et j'ai choisi la maroquinerie. Sauf que la maroquinerie, c'était en fin de vie. Et j'ai appris le métier pendant un an, et ensuite, je suis entré dans une entreprise. J'avais plein de petites entreprises où j'ai fait plein de petits boulots. À l'époque, c'était pas des petits boulots, c'était du travail, quoi, du travail de... un peu de tout, travailler dans une chocolaterie, travailler... Et puis, je suis entré dans une grande entreprise à Pechiney-Saint-Gobain, et j'y suis resté 5 ans. Et entré à 15 ans, et j'ai quitté à 19 ans. J'étais dans un milieu de jeunesse communiste et du PC, mais j'étais ouvert aussi sur un peu ce qu'on appelle maintenant l'extrême-gauche. J'ai découvert, là, ce qu'était l'extrême-gauche, voilà.
Et comment ça s'est fait, ça? Ça veut dire que à l'intérieur de l'entreprise ou de l'usine, on vous avait sensibilisé? Est-ce que c'était, ça venait de votre famille? Comment ça s'est fait, cet apprentissage?
La famille, non. Enfin, quoique, famille, on est une famille nombreuse. J'ai 6 frfrères, on était 9. Ma mère, elle, s'intéressait, était ouverte aux idées. Son père était communiste, mais des communistes du début du siècle, hein. Donc avec des principes qu'on ne trouve plus maintenant. Et moi, ma conscience, ça s'est faite plus à travers les événements de 68, où je me souviens que pour la première fois, je suis allé le 13 mai, là, lors de la manifestation sur la rive gauche. Là, j'ai découvert Saint-Michel et le quartier étudiant, que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai pris contact avec des organisations et j'ai commencé à lire et à m'intéresser à un tas de choses. La conscience de classe, on l'a vite. Parce qu'il suffit simplement d'avoir 14 ans et en short et pas avoir de pantalon pour savoir que il y a un problème de pognon et de l'argent. Mon copain qui était commerçant, il a eu une mobilette pour ses études. Moi, j'étais, m'a dit c'est bien. Bon. Et puis simplement pour sortir en boîte, bon, on n'a pas d'argent. Et en plus du travail, il fallait faire le marché, quoi, pour aller se faire de l'argent. Bon, j'ai mis 2 jours pour me rendre compte. 2 jours. Pour me rendre compte que l'école, j'ai eu tort de la quitter. Lundi, mardi. Parce que le mercredi, c'était la journée de repos. Et 7 heures dans la maroquinerie. Et l'autre, il me dit, tu viens jouer, je suis fatigué. Et là, je dis, merde, mais où je me suis balancé, je me suis mis. Et ça, c'est resté. C'est en 69 que j'ai décidé de rentrer chez Renault. Et là, chez Renault, rien que le jour du bureau d'embauche, je suis rentré. Il y avait une queue il était quelle heure? 6 heures du matin. Il y avait, à la sortie du métro Billancourt, je voyais sur la place qu'on appelle la place Birakem, 200 personnes. Et un gardien est venu. Et il a demandé, vous êtes français, vous pouvez vous passer. Et on est passé devant tout le monde en baissant la tête. Ça nous a fait tout drôle. Et c'était révoltant, mais enfin, il fallait se faire embaucher, on s'est fait embaucher.
Mais donc, vous rentrez chez Renault, donc dans une grosse boîte, parce que vous avez besoin d'argent, pas parce que vous vous dites, tiens, je vais pouvoir là exprimer vraiment mes idées et aller lutter au cœur du monde ouvrier.
Là, vous touchez un point. Si ça n'a pas été un hasard, j'ai pensé qu'il fallait aller chez Renault, que c'était effectivement une grande entreprise, et puis qu'il y avait de rassembler plusieurs dizaines de milliers de salariés, et puis que c'était là qu'il fallait que je milite. C'est un choix, parce qu'à l'époque on pouvait trouver du travail un peu partout, hein. Je l'ai choisi. et j'ai recommencé à zéro un certain nombre de choses.
Donc, dans tout ça, le syndicalisme, ça arrive comment? On vient vous voir, vous allez solliciter, comment ça se passe?
Ben à l'époque, à Billancourt, la CGT était très, très, très forte. C'était les délégués qui venaient voir. Là, c'est plus rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. On est venu me voir en me disant, voilà, je suis le délégué, si t'as un problème, ou bien je suis là, et puis c'était très bien. Ensuite, je me suis retrouvé, parce que sanctionné pour avoir discuté avec des inconnus, ils appelaient, il y avait des responsables, le service contrôle était en dehors de la production. Le service contrôle produisait, tout au moins, contrôlait ce que les ouvriers, tout au moins ce que les OS faisaient sur machine. Et il fallait contrôler. Donc le chef disait, il ne faut pas se mélanger pour avoir du poids. Or moi, c'était des copains comme moi, et puis on était payés pareil, à part que eux avaient j'avais une blouse, parce que, et puis eux avaient, mais j'étais pas d'accord, et je me suis retrouvé, donc, avec un avertissement pour avoir discuté à l'époque, je crois, 25 fois dans la semaine. Ils m'ont pas dit combien de temps je discutais à chaque fois. Mais je me suis retrouvé avec 2 jours de mise à pied pour avoir incité le personnel à monter avant l'heure au vestiaire le jour des vacances. Et là, assez vite, je me suis aperçu que c'était la guerre entre la direction et puis moi. Et puis que là, j'ai pris des responsabilités syndicales. C'est à ce moment-là que je me suis mis délégué. Et tout moi, que le syndicat m'a proposé de... Parce que je me mettais en avant et trop... Et à l'époque, j'étais pas délégué. Je sous-signe. Alain déclare connaître M. Langteau-André depuis 90.
Depuis des années, je côtoie André Langteau et j'apprécie ses qualités morales et humaines.
Lors d'un conflit en 95 qui a duré plusieurs semaines, c'est la première fois depuis que je suis hors de celle-ci et ce malgré nos différences. Je sais aussi
la parole devant plus de 1500 personnes
pour exprimer les réelles revendications que nous exprimions entre nous dans CGT. D'une part, je confirme que M. est intervenu dans le cadre de son mandat à plusieurs reprises dans les discriminations dont il est victime ne sont pas dues à la qualité de l'exécution des tâches. Conflits sur les problèmes de logement, dans les surloyers, étaient scandaleux. Conflits dans les mutations liées à la fermeture du secteur B6 à Rueil-Bonmoteur.
Sous-signé.
D'autre part, Jean-Claude autorise M. Langteau-André à produire ce témoignage auprès des tribunaux si nécessaire.
Avec rigueur, conscience et célérité. Je suis conscient que ce courrier peut servir de témoignage.
Bon, ben, j'en ai d'autres. Et là, j'ai encore 2 ou 3 classeurs comme ça avec les tracts. Parce qu'il faut prouver qu'on était délégué.
Oh, mais enfin, il y a des choses qui restent. Que je suis content. Je revois encore l'autre qui m'appelle pour me dire, vous êtes sanctionné, je vous mets 2 jours de mise à pied. Il me dit, asseyez-vous. Je lui dis, non, je reste debout. Mais pourquoi pas vous. Et puis, c'était bien. Il me dit, vous croyez où? Ben, je dis, je me crois nulle part. Et il me dit, on n'est pas en faculté. J'ai dit, en faculté, vous êtes allé parce qu'il y a des cons comme moi qui ont travaillé pour que vous puissiez y aller, parce que c'est tout. Et ça, ça fait plaisir. Il était hors de lui. Que quelqu'un de 21 ans puisse lui parler comme ça. J'étais qu'un délégué, il est jeune. Pourtant, quelqu'un de bien, un anarcho-syndicaliste qui est décédé. Mais quelqu'un de bien, il est jeune. Excuse. Non, c'est pas un problème d'âge. J'étais révolté. Oh. Fait plaisir. Ça, c'est des choses qui resteront. Et, c'est... Se faire respecter. Ah, ça, c'est terrible. Faire respecter. Et c'est effectivement la lutte. C'est la lutte au quotidien, tout le temps. De toute façon, dès qu'on sortait du métro de Billancourt, donc on commençait à 6h36, pour aller du métro à l'île Seguin. L'île Seguin, il y a 1,5 km. Vous arrivez à 6h20, c'est la course, il faut courir. Et le gardien vous demande où vous allez à cette heure-là déjà. Ça, et puis il fallait arriver à l'heure. C'est une bagarre tous les jours. Je me souviens une fois, il y avait un orage, je sortais de la cantine et j'avais ma veste de bleu qui était complètement trempée et j'ai voulu
J'ai voulu aller la changer au magasin, et le magasin m'a dit, est-ce que tu as un bon de l'agent de sécurité? Parce qu'on ne pouvait pas, normalement, le changement des bleus, c'était le lundi. Et j'ai dit, non, t'as vu, je me suis ramassé de la flotte, et il n'avait pas le droit. Or, l'agent de sécurité, lui, finissait à 17h. Il était 18h30. Alors, comment faire? Donc, c'est tous ces soucis, les petits trucs. C'était la lutte pour la production, les gens qui ont du mal à tenir. Il faut savoir que des gens, la moyenne d'âge chez Renault était de 48 ans. À l'époque, hein, c'était très vieux. Donc, des gens qui avaient 25, 30 ans de chaîne, c'était la course pour tout. C'était la course pour aller prendre le casse-croûte, parce qu'ils venaient, il y avait un arrêt de chaîne à 8h moins de quart jusqu'à 8h d'un quart d'heure. Et puis ensuite, bon, c'est tout ça. J'ai vu quelqu'un qui avait un copeau dans l'œil, hein, qui avait un copeau dans l'œil, mais qui ne pouvait pas sortir de la chaîne parce qu'il fallait un remplaçant. Et moi, je lui ai demandé de quitter et puis d'aller se soigner parce que l'œil, c'était plus important. Et c'était altercation avec chef. Chose comme ça. Alors, c'est tout ça qu'on paye d'une manière ou d'une autre, mais c'est enfin, on peut penser que ça fait sourire, mais enfin, c'est des problèmes comme ça. C'est des problèmes. C'est par exemple, la chaîne sortait 5 minutes avant. Bon, quand la chaîne était finie, les gardiens obligés à attendre l'heure exacte pour rentrer au vestiaire. Il n'y était pas question 1 minute, 2 minutes, et tout était fractionné en temps, tout était calculé. La chaîne, c'est l'argent, et tout était en fonction de la chaîne. On m'a payé comme ajusteur pendant 3 ou 4 ans, et dès que je me suis manifesté comme délégué, militant et tout ça, dès que ça a commencé à prendre des proportions, je me suis retrouvé déclassé. Et il a fallu attendre 17 ans pour repasser un autre stage et me retrouver dans la même situation qu'en 1970. Et il a fallu que j'attende, et voilà.
À partir de quand vous êtes lancé dans ce procès pour discrimination?
Alors, à partir de quand? Ce qui m'a fait déclencher ça, c'est les camarades de Peugeot. Il y a des militants chez Peugeot qui ont attaqué pour discrimination salariale et syndicale et salariale. C'est des militants, c'était pas des délégués, ça rentrait pas dans un accord. Et eux, ils avaient en face d'eux Calvet, et ils ont fait un dossier et ils ont gagné. Alors ça a eu des répercussions dans le monde syndical et dans le monde des militants, parce que ça, je crois que d'autres usines, d'autres militants ailleurs, chez Matra ou ailleurs, ont attaqué aussitôt. Et là, j'ai pris la décision d'attaquer, de dire mince, c'est pas normal, ils ont raison. Et là, donc j'avais décidé. Et on en a parlé au syndicat. On était 3 camarades à vouloir attaquer. Et lorsque ils ont reconnu qu'ils avaient quand même, il y avait une discrimination et qu'ils m'accordaient 14 000 et quelques euros, et qui me sur 30 et quelques années, et qui m'ont donné mon relevé de carrière, je me suis aperçu qu'il y avait des erreurs importante. Moi, j'estimais à l'époque ma discrimination à 700 000 francs, donc un peu plus de 100 000 euros.
Et vous avez obtenu combien finalement?
C'est passé au prud'homme, ça a prêté un départage, et là on m'a accordé donc 115 000 euros, ce qui était une bonne chose quand même. C'était une lutte acharnée, et puis joue au moral, il faut avoir, faut s'accrocher. Faut tenir moralement. Ça a duré du 27 juin. Il y a même plusieurs mois avant. Ça, c'était une situation qui était absolument pas normale. Alors que dans la défense, quand je suis au tribunal, il disait que Renault avait le souci des salariés âgés. Foutaise. J'ai des copains qui sont partis 6 mois, qui avaient 6 mois de moins que moi et qui sont alardis. Et puis quand je vois tous les camarades de Billancourt, plus de 51 ans, qui sont retrouvés dehors, ils n'ont aucun scrupule. J'ai un copain qui habite avec moi à Arcueil, qui était pourtant professionnellement très très qualifié, qui avait même des responsabilités, qui s'occupait du service social. À 56 ans, ils l'ont muté à Cléon. Il a fait Cléon, c'est à côté de Rouen. Il a fait Arcueil, Cléon pendant 4 ans. L'autre, à 53 ans, qui était un très qualifié, qui a même fait la formation de jeunes, qui a encadré des gens, il s'est retrouvé, lui, à Dreux. Et on lui a proposé de faire l'équipe à Dreux, je crois qu'il commençait à 6h, alors qu'il habitait Clamart, et qu'il est rentré comme arpège chez Renault à l'âge de 14 ans, et qu'il avait plus de 40 ans de Renault, enfin, un truc impensable. Non, c'est la bagarre tous les jours.
qui manque à la classe ouvrière, c'est une conscience. Conscience de sa classe, de sa force, de son nombre, et pas simplement en France, dans tout le monde entier. Je pense que, de toute façon, toutes les grandes idées du début du siècle ou tous les problèmes, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, il y a des gens qui se sont accaparés ça, puis au nom du communisme, on fait des tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir. Mais il n'y a pas de problème, hein. C'est le socialisme ou ça sera le communisme ou la barbarie, hein. Et là, on est en plein dedans, là.
Mais aujourd'hui, donc, on a coutume de dire qu'il n'y a plus de capitalisme, mais du libéralisme. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Capitalisme, libéralisme. Monsieur Ghosn, il est venu visiter Rueil cette semaine. Pareil qu'il a des gardes du corps. Je sais pas ce qu'il craint, mais enfin, c'est pas la mafia, hein, chez nous. Jamais j'ai vu un PDG. J'ai vu des PDG se promener avec des cadres. Là, c'était des gardes du corps, c'est autre chose. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qu'ils nous promettent?
Oui, mais alors, justement, un des gros arguments que chacun amène pour ne plus lutter, c'est regarder de toute manière tout ferme, il y a une fatalité économique, etc. Alors comment, malgré tout, on peut encore garder l'envie de lutter?
L'envie, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. C'est soit on lutte, soit on pleure, on déprime, ou on fait... Mais lutter, ça veut dire que quand une entreprise ferme, il faut non pas pleurer comme ça m'a fait mal de voir les filles de Moulinex pleurer, hein, de voir des gens qui ont travaillé 20 ans, 25 ans et puis se retrouver avec des primes de 75 000 francs alors que le PDG de Carrefour, prime de licenciement, je sais plus combien, c'est une indécence. Non, ils ont plus de travail, qui nous payent normalement jusqu'au moment qu'on soit pas des assistés. Nous, on n'y peut rien. Ils organisent mal, ils sont responsables. Il faut que la peur, elle change de camp. Hein, il faut que ça change, et puis il faut que les gens se fassent non pas se retrouver en disant c'est l'autre qui vient nous piquer ça. Non, ça va mal partout. Il faudrait se poser le problème et puis que les gens s'investissent, reprendre confiance en eux et puis montrer que c'est possible de se faire respecter, se faire craindre. Et je vous prie de croire que demain, quand la classe ouvrière commence, si demain on est comme en 36, tous les uns et tous les autres, mais surtout pour faire confiance à n'importe quel margoulin qui arrive et qui promet tas de choses, que les gens surveillent le portefeuille, moi je le donne pas au voisin pour le gérer, hein. Donc le reste, la confiance, c'est comme ça, hein. Donc il faut que les gens surveillent qui ils élisent, qui ils font, et puis voilà. Le syndicalisme, ça devrait être tout salarié conscient peut syndiquer, parce que c'est le peuple, c'est la première chose qu'il faut faire, se syndiquer, mais ça ne suffit pas. Faut que les travailleurs fassent de la politique. Faut qu'ils s'intéressent à la politique. Il faudrait que des syndicalistes amènent des salariés à la bourse pour qu'on explique un peu comment ça fonctionne et puis en quoi les salariés quand les entreprises demandent à des salariés de mettre leur argent là-dedans non ça on ne devrait pas marcher dans ces trucs-là. C'est trop grave de conséquences parce que on nous fait croire que on fait croire à beaucoup de choses.
Comment le syndicalisme peut proposer des solutions, ou en tout cas des hypothèses de solutions, ou des actions pour aller dans ce sens-là?
Syndicalisme, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop, parce que là, on s'est parti, là, en France, syndicalisme s'intègre de plus en plus. Ça va pas être simple. Il faudrait que tout travailleur sache qu'était la Commune de Paris. Il faudrait que tous les salariés réétudient un petit peu, tout au moins qu'on connaisse. Il faut qu'on apprenne tout ça. Il faut qu'on sache ce qu'était l'histoire du mouvement ouvrier, notre histoire. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de Napoléon.
Je sais pas si tout le monde a entendu parler de Varlin. Certainement pas. Pourtant, Varlin, il faut connaître. Il faut connaître Varlin, il faut connaître qui était Rosa Luxembourg, qu'est-ce que c'était que la Première Internationale, ce que c'était que le chartisme, qu'est-ce que c'était la Révolution de 48, qui était Lamartine, qui étaient tous ces gens. Parce que si on avait connaissance, il faut apprendre à savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Blanqui, c'est pas qu'une rue.
Imaginons, vous êtes devant un jeune.
Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Je lui dis, écoute, t'intéresses pas, t'as encore 40 ans à faire. 40 ans, ça passe vite. 160 trimestres, peut-être plus, parce qu'ils te promettent plus. Et puis, t'as pas fini. T'as intérêt quand même à t'occuper de ça. Moi, je te demande pas de rentrer dans mon truc. Je te demande de t'intéresser à ce qui se dit, t'intéresser à ce qui se passe, et de pas laisser berner, ni par moi, ni par qui que ce soit. Mais intéresse-toi. Fais comme les gens qui prenaient les tracts et qui savaient pas lire et qui demandaient aux copains « Dis-moi ce que j'ai. » Mais intéresse-toi. Quand je diffuse des tracts, dans les entreprises où les gens ont du mal à lire, les ouvriers, eux, ont des principes. Ils prennent les tracts et ils essaient de le lire. Dans une boîte de cartes, j'en ai vu plein qui ne lisaient pas. Ben, je leur dis « Continuez comme ça, ça va être pire. » J'ai vu des gens quitter des réunions, avoir des problèmes, mais terribles. J'ai vu un directeur qui disait que les mutations n'étaient pas... Les mutations, c'était pas un problème. Maintenant, lui, il a fait des dépressions. J'ai demandé à ses collègues où il était. Ils savent pas, ils s'en fichent, comptent plus. Il y a la place. Il y a une place, et puis il y a combien de candidats. Alors, c'est terrible. Les jeunes, 20 ans, 22 ans, j'en ai vu quelques-uns. Quand le syndicat nous donnait des calendriers avec des noms des délégués. J'ai vu des jeunes sur le micro, je lui ai dit, écoute, fais attention à ton dos, parce que là, t'es plié comme ça, mais tu devrais voir un médecin, tu vas voir que dans 30 ans, tu vas être à l'équerre. Alors, l'équerre, il sait pas trop ce que c'est, mais enfin, je vais lui expliquer, le dos, et il aura des problèmes. Et je lui dis, là, si t'as un problème un jour, regarde, il y a mon nom, et il y a le nom des copains, si t'as besoin de quelque chose, et je sais qu'un jour, il aura besoin. Parce que personne n'est à l'écart. Personne. Quand ça arrive, il faut pas attendre que ça arrive. C'est ça le problème. Et ça, c'est ce que je dis à ma fille, continue, t'auras au moins une vie consciente. Et c'est pas rien d'avoir une vie consciente. Savoir pourquoi le syndicat agit comme ça, pourquoi le chef agit comme ça, pourquoi. Ça, t'es sûr de l'obtenir. Le reste, ça dépend pas de nous.